Alors un homme de loi dit « Mais qu'en est-il de nos lois, maître ?» Et il répondit « Vous vous plaisez à édicter des lois, mais vous vous plaisez plus encore à les tourner. Comme des enfants qui jouent avec application à bâtir des châteaux de sable au bord de l'océan, ils les détruisent ensuite en riant. Mais tandis que vous bâtissez vos châteaux de sable, l'océan apporte encore plus de sable au rivage. Et quand vous les détruisez... »
J'ai terminé la chronique précédente en disant que l'école traditionnelle était logiquement et nécessairement asocialisante. La volonté politique, s'il y en a une, ne suffira pas à la rendre totalement socialisante. Cela tient à sa conception des apprentissages et de la transmission des savoirs par un maître. À l'inverse, une école du troisième type est nécessairement socialisante sans que cela tienne forcément à une volonté politique ou philosophique. Nous avons renversé l'ordre des processus. La source, le moteur des apprentissages qui ne sont que la construction des langages, c'est la vie de l'enfant. C'est ce qu'il fait, ce qu'il peut faire, ce qu'il a besoin de faire dans une autre entité sociale. En interaction avec l'environnement et avec les autres de la nouvelle entité. C'est dans une succession ininterrompue de faire, de projets et de leur réalisation que s'effectuera la construction des langages dont il aura besoin. C'est lui l'acteur, l'auteur, le détenteur d'un pouvoir qui n'est que le pouvoir de vivre. C'est dans l'exercice de ce pouvoir, au sein d'une entité dont les membres détiennent aussi le même pouvoir, que va s'effectuer la socialisation. Au lieu d'être dans la soumission à un pouvoir, c'est dans l'exercice d'un pouvoir que l'enfant va poursuivre sa socialisation, c'est-à-dire la construction de son autonomie dans de nouvelles interdépendances. Le détenteur habituel du pouvoir institutionnel, l'enseignant, n'y occupe plus la même position. Son pouvoir va changer de nature. La finalité technique de l'école et de son instauration, c'est bien que les enfants et les adolescents y poursuivent la construction des langages qui leur seront nécessaires. Dans l'école traditionnelle, cette finalité doit être la leur, sinon l'école ne fonctionne pas. Tu vas à l'école pour apprendre, pas pour y faire autre chose ou t'y amuser. C'est une finalité exogène qui n'appartient pas aux enfants. Dans une école du troisième type, la même question posée aux enfants obtient des réponses différentes. Je vais à l'école pour y faire des tas de choses, pour faire des trucs avec mes copains, pour faire ce que je ne peux pas faire à la maison, pour m'amuser. C'est-à-dire pour continuer de vivre. Le vivre n'est constitué que de faire. Cette fois, nous sommes dans une finalité endogène. Les enfants auront le pouvoir, en même temps que des contraintes à s'imposer et à respecter pour atteindre leur finalité, vivre, vivre avec et vivre ensemble. L'atteinte de la finalité exogène sera le souci des adultes professionnels. Pour ce faire, ils savent qu'il faut que se constitue une véritable entité sociale où la finalité endogène de chacun pourra être satisfaite. Et ils savent que ce n'est qu'à travers les faire de chacun dans un collectif et un environnement particulier qu'ils pourront aider, orienter, provoquer la construction de tous les langages. Ce n'est plus le « faites ceci, faites cela » qu'ils auront à imposer, mais ils auront à se demander « qu'est-ce que je peux faire pour que les enfants fassent ? Qu'est-ce que je peux faire pour que chacun fasse parmi et avec les autres ? Qu'est-ce que je peux faire pour les aider à faire ?» La constitution et le maintien dans l'harmonie d'une entité sociale devient alors un de leurs premiers problèmes professionnels. Leurs compétences et leurs pouvoirs, alors naturellement reconnus, ne sont plus subis, mais sollicités. L'autorité devient légitime quand elle est un pouvoir reconnu parce que ceux qui l'acceptent en bénéficient immédiatement. Nous avons là les deux éléments d'une socialisation.
Ils ne voient que leurs ombres, et leurs ombres sont leurs lois. Et qu'est-ce que le soleil pour eux, sinon un producteur d'ombre? Et qu'est-ce que reconnaître les lois, sinon s'y soumettre et indiquer leurs ombres sur la terre? Mais vous, qui marchez face au soleil, quelles images dessinées sur la terre peuvent vous retenir? Vous qui voyagez avec le vent, quelle girouette orientera votre course?
Considérons que l'ensemble des règles que se donne une société constitue sa structure, lui permettant de fonctionner et à chacun d'y vivre et de s'y épanouir. Et considérons que notre école du troisième type constitue une micro-société, une entité autonome. Aucun projet ne peut s'y réaliser s'il ne peut s'insérer dans un ensemble sans le perturber. Mais aussi, tout projet perturbe nécessairement l'ensemble. L'auto-organisation est une adaptation permanente aux perturbations. Ce sont donc les projets, les envies, les besoins dans leur infinie variété qui vont structurer l'école devenue un système vivant. C'est à partir de cela qu'elle va s'auto-organiser. Le premier point, c'est que des projets puissent naître, s'exprimer, interagir et rebondir en continu. Aucune société, aucun groupe social ne peut se constituer, s'auto-organiser sans cela. Il ne peut pas perdurer s'il ne permet pas, s'il ne favorise pas cela. C'est sa finalité première. Dans l'artificialité originelle de l'école, les adultes professionnels ont à mettre en place ce que j'ai appelé un embryon de structure. Après de nombreuses années d'expérience et de tâtonnements multiples, il apparaît que cet embryon de structure doit simplement comporter trois éléments. Un aménagement de l'espace scolaire, permettant dans ses frontières les multiples agir, permettant la réalisation des projets, en même temps que leur provocation et leur interaction. C'est ce que nous avons appelé les ateliers permanents. Ensuite, un espace-temps d'interrelation. Un espace-temps de l'expression partagée des envies, des besoins, de ce qui a troublé, de ce qui a intrigué, de ce qui a ému. Le brassage de l'information que chacun porte en soi. Un espace-temps de l'émergence de projets. Un espace-temps où ces projets vont nécessiter l'auto-organisation. Un espace-temps à la fois place du village, coin de cheminée et agora grecque. C'est ce que nous avons appelé la réunion. Et enfin, quelques outils permettant la concrétisation de l'auto-organisation, comme par exemple les tableaux de bord que dans la pédagogie Freinet on appelle plan de travail, mais qui en diffèrent notablement. C'est dans ce cadre que la poursuite de la socialisation va s'opérer. L'autonomie de l'agir et de l'être dans de nouvelles interdépendances à accepter en même temps qu'à définir. Dans des interdépendances qu'il faut rendre bénéfiques. Les contraintes que l'auto-organisation crée, les enfants vont devoir se les imposer au lieu de les subir passivement, leurs agir en dépendant. Les règles implicites ou explicites qui en découleront n'auront plus le même sens. Elles auront un sens, celui de permettre. Permettre d'être et de se construire en personne autonome, devant vivre avec d'autres personnes, elles-mêmes autonomes. Les valeurs seront celles auxquelles une communauté se sera attachée, parce qu'elles lui permettent de vivre en harmonie. Ce seront des valeurs qui se seront instaurées dans la continuité de son histoire, de par son histoire, dans son social historique, selon l'expression de Castoriadis.
Peuple d'Orphalèse, vous pouvez étouffer le tambour et vous pouvez relâcher les cordes de la lyre, mais qui interdira à l'alouette de chanter?